Avant de commencer, j'aimerais rebondir sur ce que Hélène a amené tout à l'heure lorsqu'elle a parlé que Hérode, donc dans sa méchanceté, il ne voulait pas que Jésus... Il a voulu éliminer donc Jésus, le faire mourir. Donc ça, c'est une réalité historique du point de vue humain. Il y a aussi un autre regard que la Bible nous donne, qu'on trouve dans Apocalypse 12. Alors c'est pas là, ça c'est lié. Mais c'est justement par rapport à cette situation que Jésus a vécue. Dans l'Apocalypse 12, on voit c'était pas prévu que je le donne, ce passage, mais je veux rebondir parce qu'on va parler de ces sujets-là d'une certaine façon. On trouve dans Apocalypse 12 ce récit, cette vision, c'est une vision. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant. Dès qu'elle accoucherait, elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. On sait qui c'est. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Donc vous voyez, il y a Hérode qui a fait ce qu'il a fait, mais derrière il y a cette réalité. Derrière il y a une réalité, dans le monde invisible. Aujourd'hui, on va parler de ces choses-là. On va essayer de jeter des lumières sur le monde invisible. C'est pas du tout facile de parler du monde invisible tel que la Bible en parle. Et il y a beaucoup d'enseignements qui sont pas très équilibrés par rapport à ça. Je me sens poussé à parler de ça, c'est parce que moi j'aurais choisi, mais ça fait 2 mois, 3 mois que je suis travaillé par rapport à ça. Les ados sont intéressés par le sujet, donc ils veulent qu'on en traite, je le ferai avec eux. Et moi je me sens poussé à vous parler de ça, j'en ai parlé un peu la dernière fois. Donc on va essayer d'avancer, je vais faire une série par rapport à ça. Aujourd'hui on va commencer à jeter quelques lumières sur le monde invisible. Donc dans la suite, donc moi... Je reprends mon petit texte. Alors, il y a de nombreuses questions par rapport à ça. La Bible nous parle de nombreux êtres qui évoluent dans le monde spirituel invisible, dont les actes ont des répercussions sur notre monde visible. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Quelle est leur destinée? Quels sont leurs rapports et relations avec Dieu? Et quel rapport devons-nous avoir avec eux? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va voir. Est-ce que je crois dans la Bible? C'est vrai ? Voilà, c'est un bon début. Alors on va voir Dieu et les dieux. Le conseil divin, l'armée céleste, qui sont ces Elohim ? De nombreuses questions dont nous essaierons de parler par la suite. Alors, est-ce que je crois dans la Bible ? La Bible décrit un monde surnaturel qui est étrange. Nous allons explorer des passages étranges, nous allons réexaminer des passages familiers. Nous examinerons la Bible au travers de la vision surnaturelle du monde de ses auteurs. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la différence entre nous et les auteurs de la Bible et les gens à qui ils s'adressaient, la vision du monde que nous avons est très différente de la leur, surtout en ce qui concerne les choses spirituelles. Au début, nous pourrions être tentés de les ignorer, mais si nous disons que nous croyons la Bible, nous ne pouvons pas nous soustraire à ces concepts. Nous allons nous baser sur le psaume 82 pour étudier le royaume invisible. Au début du psaume 82 au verset 1, nous avons un verset étrangeoïde et bizarroïdal qui nous dit ceci. Dieu, Elohim, se tient dans l'assemblée des dieux, la communauté d'El. Il juge au milieu des dieux, encore Elohim. Donc nous avons Elohim pour désigner le dieu d'Israël et Elohim pour désigner des dieux. Et de qui parle-t-on? De qui se moque-t-on? Non, de qui parle-t-on? En nouveau français courant, Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Donc nous avons affaire à une assemblée divine, un conseil divin, et des dieux. Et ces dieux sont-ils vraiment des dieux? Ah ah! La suite, on va le voir. Donc, premier verset qui est un petit peu étrange, c'est ce verset qui parle des Elohim. Alors, Elohim dans la Bible, ça existe 2681 fois, il est utilisé. La très grande majorité, 2330 fois, ben c'est pour le Dieu d'Israël, l'être surnaturel qui a créé et règne sur l'univers. Ça peut désigner aussi un autre être surnaturel, 254 fois, qui est adoré comme contrôlant une partie du monde ou certains aspects de la vie qui est la personnification d'une force. C'est un être créé surnaturel par Dieu et conçu comme un fils de Dieu. La Bible parle beaucoup des fils de Dieu. Ça peut être un fantôme, l'esprit d'une personne contactée par nécromancie. Il y a un passage très, très bizarre dans l'Ancien Testament, c'est quand il y a une nécromancienne qui fait revenir l'esprit de Samuel. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Je vois un Elohim en hébreu. Je vois un Elohim, et c'est Samuel. Bon, salut Samuel, bienvenue au club des Elohim. On est content de te revoir. Ça peut être des êtres célestes particuliers, possiblement des anges qui sont connus pour leur puissance. Donc on voit que le mot Elohim n'est pas forcément et exclusivement, même s'il est très majoritairement, utilisé pour le Dieu d'Israël. Et donc, on nous a parlé aussi d'un conseil divin. Et on va regarder donc ce que c'est que ce conseil divin. Alors, on va prendre un exemple, on va prendre un récit qui concerne le roi Akab. Donc, ce roi Akab, comme il est écrit ici, il n'était pas sympa. On a parlé du roi Hérode, mais alors lui non plus, c'est pas le genre de gars avec qui je serais allé chercher des champignons. Donc, en vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel, qui était donc une femme cananéenne, qui était une adoratrice de Baal et d'Astarté, et qui voulait absolument imposer ce culte-là, donc c'était pas si vous avez envie, c'était si je veux. C'est sa femme Jézabel qui l'y poussait, il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un récit, je vais essayer de le résumer pour pas trop le lire et le faire trop long. Il y a un récit, à un moment donné, Akab, il veut refaire la guerre à la Syrie, à Aram, à la Syrie, et il demande au roi de Juda, qui était Josaphat à l'époque, qui était lui un bon roi pieux, qui aimait le Seigneur, il lui demande de venir l'accompagner pour aller taper les Syriens, quoi, leur faire la guerre et reprendre des villes que les Syriens leur avaient prises. Donc, c'est la guerre, c'est la bataille, tout ça. Et il lui dit, est-ce que tu vas venir avec moi ? Et Josaphat, il dit, oui, je viens avec toi, je mets mon armée avec toi, on y va tous ensemble, les chevaux et tout ça. Et Josaphat, qui était quand même un homme pieux, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas consulter des prophètes de Dieu ? Et donc, il y en avait des prophètes de Dieu, il y en avait 400. Et ils arrivent tous devant les deux rois, ils disent, oui, il n'y a pas de problème, tu vas gagner, tu vas remporter la bataille. The finger in the nose, the big toe in the pocket, ça va marcher tout seul. Mais Josaphat, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il dit, il n'y a pas d'autre prophète qu'on pourrait consulter ? Et puis là, Akab lui dit, oui, il y a Miché, là, le fils de Limia, de Yimla, et chaque fois qu'il dit un truc, c'est contre moi. Donc moi, je ne l'aime pas, je ne veux pas l'entendre, lui. Et donc Josaphat, il dit, parle pas comme ça. Et bien, donc du coup, Akab fait venir Miché, qui n'était pas le prophète Miché de la Bible, mais dont le livre porte le nom, mais un autre prophète Miché, qui était juste un agriculteur, mais de temps en temps, il recevait la parole de Dieu, quoi. Et donc, quand ils vont chercher Miché, le fonctionnaire du roi Akab lui dit, écoute, tous les prophètes, ils ont dit du bien, donc tu vas dire du bien. Et donc Miché, il dit, ben moi, je dis ce que l'Éternel me dit, hein. Toi, tu me dis ce que tu veux, et moi, je dirai ce que Dieu veut. Et donc, il arrive devant les deux rois, et Akab lui dit, alors, est-ce qu'on va avoir le succès ? Et puis alors, de manière très ironique, Miché lui dit, mais oui, vas-y, tu verras, ça va bien se passer. Vas-y. Et donc, Akab, il sent que Miché est en train de se moquer de lui. Et il lui dit, mais dis-moi la vérité, franchement, qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Et il dit, ça va pas bien se passer, en fait. Moi, j'ai vu que tout le peuple d'Israël qui était dispersé comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Et tu vois, alors Akab se met en colère, il dit à Josaphat, tu vois, chaque fois, il prophétise des choses contre moi et tout ça, je peux... Et là, Miché, il lui dit, mais moi, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu cette scène-là. Et on va le lire quand même, parce que ça, c'est un passage qui est important. Cette deuxième partie, donc on va le prendre à un roi. Si vous avez votre Bible, 22, verset 13... à 23. Donc, un roi, je vous l'ai mis. Donc, je ne sais pas si ça commence vraiment. 13. Voilà, donc Miché, voilà, j'ai vu tout Israël dispersé. Alors, voilà, eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur a dit « Qui dupera Akab pour qu'il attaque Ramoth en Galade et qu'il y tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, il est écrit un esprit, pas un ange. Un esprit sortit, se présenta devant le Seigneur et dit « Moi je le duperai ». Le Seigneur lui dit « Comment ?»« Je sortirai, dit-il, et je serai un souffle de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Il répondit « Tu le duperas, tu réussiras. » Là c'est le Seigneur qui lui répond « Sors et fais ainsi. » Et maintenant le Seigneur a mis un souffle de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, que voici, le Seigneur lui a décrété un malheur contre toi. Donc qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu à Akab ? Il a vu le conseil divin. Il a vu Elohim le Seigneur avec les Elohim autour de lui. Il a vu ce conseil divin. Il a vu un conseil dont l'ordre du jour, il dit « Qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser d'Akab ?» Donc on est bien dans le conseil divin. Et des scènes comme ça, dans l'Ancien Testament, vous en avez. Alors, est-ce qu'il y avait des idées qui viennent en tête ? Des scènes comme ça ? Job. Job, voilà, Job. Par exemple, il est écrit « Un jour, les fils de Dieu viennent se présenter devant le Seigneur. Et l'adversaire aussi vient au milieu d'eux. » Dans l'hébreu, c'est bien l'adversaire. Donc, c'est bien, y a bien un article devant. Parce qu'à cette époque-là, dans la théologie, on n'avait pas fait le lien entre ce personnage et le serpent de la Genèse. Mais bon, c'est pas grave, c'était bien lui. Voilà, et dans le livre de Daniel, on trouve par exemple « Tandis que je regardais, on installa des trônes et un vieillard s'assit. » Donc après, il y a une description du vieillard. « Je coupe, je saute. Un fleuve de Dieu, de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 fois 1000 se tenaient devant lui. » Et là, on voit cette armée des cieux dont on a chanté, on en a parlé dans un cantique là. Et son armée remplit les cieux. Et on voit tout ce qu'il y a autour de Dieu. 1000 milliers le servaient. On voit ces êtres dont la Bible dit qu'ils sont des Elohim. Et il nous est dit dans Hébreux que nous nous sommes approchés de la cité de Dieu des dizaines de milliers d'anges. Alors il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même une différence. Je vais juste le survoler maintenant entre le Dieu qui est Elohim, le Dieu d'Israël, et les Elohim. La différence, elle est donnée par exemple dans le psaume 89:7. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel ? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes ? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des siens. On retrouve cette notion de conseil. Il est grand, impressionnant, au-dessus de tout ce qui l'entoure. Donc c'est la différence entre le Dieu créateur de toutes choses et des êtres créés qui sont certes extrêmement puissants. On en reparlera, mais les anges, les esprits, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. On ne se pointe pas devant eux en leur disant « tu veux la bogore ?» Parce que là, on ne va pas tenir une seconde. Il y a un passage dans la Bible où un seul ange, il tue 180 000 hommes en une nuit. Donc, on n'a pas affaire à les choses du monde spirituel. C'est une autre dimension. Au point de vue de la sagesse, de l'intelligence et de la puissance, on est largué. On est largué, complètement largué. Ce sont des êtres extrêmement puissants, extrêmement sages, et qui savent comment s'y prendre pour nous avoir, s'ils ont envie. Donc notre protection, c'est le Seigneur, qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui est leur créateur. Car c'est toi, au psaume 97:7, il est écrit « Car toi, Seigneur, tu es le très haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, en hébreu, Elohim. » Donc, on en reparlera parce que c'est très important, parce que beaucoup de gens ont du mal avec ce genre de verset de la Bible parce qu'on veut préserver la Trinité. Et c'est normal, la Trinité, c'est une doctrine de la Bible qui est fondamentale, c'est la première doctrine dont la Bible a accouché, et dont l'Église a accouché, entre guillemets, par rapport à la Bible, et elle a mis beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses, avant que l'Église puisse formuler une doctrine claire de la Trinité. Et donc, pour ne pas attaquer l'unicité de Dieu et la Trinité, on avait du mal de parler de ces « dieux », entre guillemets, ces « Elohim ». Mais ils existent bel et bien, mais c'est juste des êtres spirituels qui sont créés par Dieu. Autre chose qui est un peu bizarre et étrange qu'on trouve dans la Bible, c'est l'armée du Seigneur, l'armée céleste. On en a parlé dans un chant. On a ce récit étrangeoïde et bizarroïdal qu'on trouve aussi dans le livre de Josué, Josué chapitre 5, 13 et 15. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, libéré par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ou Dieu, comme on l'avait vu la dernière fois, il a affronté les dieux d'Égypte et il les a jugés. Toutes les plaies d'Égypte, c'était pour ridiculiser un dieu du panthéon des dieux d'Égypte. Hein, à la fin, voilà, quand il y a eu les ténèbres, ben c'était le dieu Ra, il y avait différents dieux, donc il y avait des dieux en forme de grenouilles, et Dieu a fait venir des grenouilles. Voilà, et toutes ces choses, tout ce genre de choses, Dieu donc, il a exercé ses jugements sur l'Égypte, mais sur les dieux d'Égypte. Et c'est très vraiment marrant de voir que lorsque Dieu juge, il ne juge pas que le monde visible. Derrière, il y a des jugements qui sont faits sur le monde invisible aussi. Et on va le voir quand on va continuer le psaume 82, et on va le voir par exemple ce qui est dit dans Ésaïe, où il dit qu'à la fin des temps, Dieu jugera l'armée d'en bas, mais l'armée d'en haut aussi. Et c'est écrit dans le même verset. Donc il y a toujours ce lien qui existe entre ce qui se passe dans le monde invisible, spirituel, et ce qui se passe dans le monde visible. Et là, l'Église, on le verra, elle a un rôle à jouer. Et ça, c'est dans Éphésiens qui nous est dit que nous avons un rôle à jouer. Et on le voit, par exemple, dans le livre de Daniel, on va le voir encore. Et donc là, on voit donc notre ami Josué, le successeur de Moïse, il doit faire rentrer, conquérir le pays de Canaan pour que le peuple d'Israël s'installe dans la terre promise. Mais comme les peuples païens qui adorent des idoles assez violentes et qui sont bien sur leur terre ne veulent pas se laisser déloger, ça va se faire par la guerre. Voilà. Et donc il arrive près de Jéricho et puis tout d'un coup, il lève les yeux, il voit un homme qui se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Ça c'est la question très humaine. T'es avec qui? T'es dans quel camp? Et la réponse de cet homme, entre guillemets, est très bizarre. Il répondit, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant, je suis arrivé. Autrement dit, moi, mon camp, c'est Dieu. Mon camp, c'est Dieu. Mon camp, c'est Dieu. Je suis là pour faire ce que le Seigneur me demandera de faire. Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit, qu'as-tu à me dire, mon Seigneur? Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Josué fit ainsi. Très bizarre, c'est un homme. Josué se prosterne devant lui. Enfin, il nous dit qu'il est un homme. Josué se prosterne devant lui, il se prosterne, et qu'as-tu à me dire, mon Seigneur? Donc c'est peut-être plus qu'un homme. Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, ça vous rappelle quoi? Moïse. Et devant, il avait Dieu quand même. Donc alors, c'est qui ce chef de l'armée de l'Éternel?
Jésus, dans sa préexistence.
Attention. C'est une réponse. Voilà. Donc, vous voyez, ces passages un peu bizarroïdes. Nos amis anglophones, ils ont un mot pour dire ça. C'est « weird ». Depuis 2 mois, je suis dans le « weird ». Donc, voilà. Donc on a cette armée du Seigneur, et il y a un passage encore qui est très parlant, qu'on trouve dans le livre des rois, dans 2 rois 6, 8, 23. J'explique le contexte. Le royaume d'Israël, le royaume du Nord, est encore en guerre contre la Syrie. C'était vraiment un ennemi redoutable à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Syrie avait une armée bien supérieure à l'armée d'Israël. Mais elle n'arrive pas à gagner parce que chaque fois que le roi de Syrie formulait des plans et qu'il disait à ses généraux on va faire ci, on va faire ça, chaque fois qu'il dit on va aller camper à tel endroit, il y va, les Israélites ils sont déjà là. Alors à un moment donné il se dit, ouh, mais il y a un traître parmi nous. Il y a un type là qui va répéter ce que je dis aux Israélites, et chaque fois que je veux faire un mouvement avec mon armée, les Israélites, ils y sont déjà et je me fais avoir. Donc il dit, il y a un traître parmi nous. Et puis il y en a un qui dit, mais non, c'est pas un traître parmi nous, c'est Élisée le prophète qui répète à Israël tout ce que toi tu dis, même dans ta chambre à coucher. Et alors, pour des gens de cette époque, ça les choquait pas de croire en ça. Hein. Vous remarquerez que ça les choque pas de croire en ça, parce qu'il va le croire. Hein. Il va dire donc, eh ben, on va aller attraper Élisée, on va le faire prisonnier, comme ça, il ne pourra plus répéter au roi d'Israël tous mes plans de campagne. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent, Élisée avec son serviteur, il est dans la ville de Dothan. Donc, qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient l'armée. Donc, ils vont autour de cette ville de Dothan, et le lendemain matin, quand ils se lèvent, Élisée et son serviteur, vous l'avez marqué là, ils voient que la ville de Dothan est entourée de chars et de chevaux. Ils sont venus pour attraper Élisée. Et alors, ils commencent évidemment à se sentir pas du tout rassurés. « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée lui répond, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. »« Ah bon ? Moi, je vois rien. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et là, il voit le monde invisible. Il voit le monde invisible. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors c'est très rassurant, parce que ça prouve que si Dieu a décidé de nous protéger, il a décidé de nous protéger. L'ennemi ne peut rien faire. Voilà. Alors, à la question « Qui sont ces Elohim ?» On a un Elohim et des Elohim dans un conseil divin, on a une armée céleste, oups, de qui parle-t-on ? Ça fait mal à la tête. On a un verset qui nous éclaire aussi. Alors, on va faire un peu de... Je vais devoir vous parler un peu de critique textuelle, mais je vais essayer d'être très bref et très simple. Alors, il y a ce fameux verset dans le Cantique de Moïse, qu'on trouve dans Deutéronome 32. « Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il sépara les humains, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des Israélites. » Et on verra que dans les autres versions, des versions anciennes, la Bible, la traduction grecque de l'Ancien Testament, il est écrit « Selon le nombre des anges de Dieu et les manuscrits de la Mer Morte, disent selon le nombre des fils de Dieu. » Alors, de quoi parle-t-on ? Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il sépara les humains. Ça vous fait penser à quoi ? Ça s'est passé quand, ça ? Ça s'est passé à Babel. Hein ? Ça s'est passé à Babel. Dieu a confondu le langage des hommes et ça a donné naissance aux nations. Donc ça, c'est dans Genèse 11, mais Genèse 10 nous donne la table des nations. Alors nous avons un problème qu'on appelle de critique textuelle. La Bible est traduite à partir des langues anciennes, des langues originales. Il y a une langue originale, ou des langues originales, et une langue source, par exemple le français ou l'anglais, ou je ne sais pas quoi. Donc, ils traduisent à partir de quoi ? Il y a le texte massorétique, qui est une recopie pendant des siècles du texte hébreu, qui a été fait de manière très, 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 très poussée, très technique et très précise. Et par des scribes, qu'on appelle les massorètes, c'est pour ça que ça s'appelle texte massorétique. Et il a été très bien conservé, ce texte, et il nous est parvenu dans un très bon état. Mais les copies que nous avons, les plus récentes, datent à peu près du XIe siècle, je crois. Enfin. Donc, mais par contre, on a aussi la Bible dite des Septante, qui est la traduction de l'hébreu au grec, mais qui a été faite bien avant. Donc ça veut dire qu'ils sont partis d'un texte hébreu qui était antérieur. Un texte hébreu qui devait dater donc d'avant Jésus-Christ. Et ils l'ont traduit, en grec. Et dans notre Nouveau Testament, la majorité des citations de l'Ancien Testament sont faites à partir de la version des Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et puis on a découvert, après la Deuxième Guerre mondiale, les fameux manuscrits de la Mer Morte, à Qumran. Les fameux manuscrits de la Mer Morte, ce sont quoi ? Ce sont plein de manuscrits qui ont été conservés dans des grottes et dans des jarres. Et le fait que le climat est très sec, eh bien ça a permis à ces manuscrits de ne pas se dégrader avec le temps. Donc on a découvert des manuscrits en très bon état, et une bonne partie de la Bible. Je ne sais pas s'il y a tout l'Ancien Testament, mais une bonne partie de la Bible. Et donc on a retrouvé évidemment le texte du Deutéronome aussi. Et donc en comparant, qu'est-ce que fait un traducteur de la Bible ? Eh bien, il sait qu'il y a différentes sources, il sait que des fois, dans la majorité des cas, ça dit la même chose, à très peu de choses près, mais là, il y a des fois des cas où ça ne dit pas la même chose, et là, c'est le cas. Donc, la question qui se pose, c'est comment traduire ? Est-ce qu'on doit traduire le nombre des Israélites, ou selon le nombre des anges de Dieu, selon le nombre des fils de Dieu ? Moi, j'ai regardé des ouvrages spécialisés, faits par des évangéliques, et pas que des évangéliques, mais qui sont des spécialistes de l'Ancien Testament. Beaucoup disent il y a de fortes chances, très fortes chances, que l'original, ce soit le nombre des anges de Dieu ou le nombre des fils de Dieu. Par exemple, déjà vous prenez la traduction de Tob avec les notes intégrales, ils le disent. Bon commentaire évangélique, Nicote, World Biblical Commentary, ça, ils disent aussi il y a de fortes chances que l'original, ce soit les anges de Dieu ou les fils de Dieu. De fortes chances. et que c'est pas le texte masorétique, ce n'est pas le texte masorétique qui fait foi. En quoi, quoi qu'il en soit, ce que ce texte nous montre, c'est que beaucoup de spécialistes donc de l'Ancien Testament, je parle vraiment de gens très sérieux qui ont vraiment de vraies connaissances et qui disent pas n'importe quoi, pensent que voilà la doctrine qui est derrière et qu'on va retrouver dans le livre de Daniel, c'est que Dieu a alloué entre guillemets des patrons à des nations, c'est-à-dire il a demandé à certaines entités, certains Elohim, certains esprits puissants de gérer entre guillemets, de s'occuper de certaines nations. Et c'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, par la suite. Donc c'est quelque chose qui est repris par Paul, où il dit « À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. » Et après, on trouve dans Daniel, donc ça c'est pour la séparation donc, des peuples. Et donc on voit la souveraineté de Dieu. Hein. Dieu reste souverain sur tout. Hein. Du reste, c'est Dieu qui décide, tout se fait selon sa volonté. Du reste, souverain. Et après, on voit dans le livre de Daniel, qu'est-ce qui se passe? C'est une période où Daniel a lu le prophète Jérémie, qu'il devait sûrement connaître avant, mais il a relu, et il a dit que Daniel, lui, il vivait à Babylone, qui, à cette époque-là, était sous la domination des Perses. Le grand empire perse, qui était énorme, hein, c'était énorme l'empire perse à l'époque. Et donc, il vivait à Babylone, qui avait été pris et conquis par l'Empire perse, qui avait vaincu les Babyloniens. Et donc là, lui, il était resté en place, parce que c'était un excellent homme d'État, un excellent ministre, et donc il l'avait gardé, parce qu'ils étaient intelligents et ils savaient garder les compétences. Donc, et puis c'était la volonté de Dieu aussi. Donc, mais c'était un homme pieux, c'est un homme qui avait une vie de prière très conséquente, très forte. Il avait un travail énorme, parce qu'il avait des responsabilités énormes, mais il était très sérieux dans sa vie de prière. Et il a relu donc le prophète Daniel, il a vu que l'exil du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était exilé, il avait été exilé par les Babyloniens, et donc il était dispersé dans ce royaume de Babylone, qui avait été ensuite vaincu par les Perses. Il était exilé là-dedans, il a lu donc la prophétie de Jérémie qui dit que ça va durer 70 ans. On était en train de s'approcher de ces 70 ans, donc lui, il a pas dit, ben, Dieu l'a dit, on va attendre que ça se fasse. Non, non. Il s'est mis à prier et à jeûner. Vous voyez la différence de mentalité? Il a pas dit, oh ben, il a dit 70 ans, on n'y est pas loin. Il me reste dans mon crédit congé, il me reste 2 semaines, je pars 2 semaines à Honolulu, moi. Ou en Crète, ou en... Ouais, je pars en Grèce, me faire bronzer dans les îles, à Mykonos et tout ça. Non, non. Il a dit, je vais prier et jeûner. Et pourtant, Dieu avait dit que ça se ferait. Mais lui, il a dit, ça se ferait, mais moi, je vais prier. Alors, et quand il a commencé à prier, à un moment donné, il a vu un personnage dont la description ressemble étrangement à celle de Jésus dans Apocalypse 1, qui vient le voir et qui lui parle. Et qui va lui révéler certaines choses que Dieu va faire. Donc c'est une vision prophétique, il a une vision carrément, il voit vraiment le personnage. Et dans ce personnage, à un moment donné, il va lui dire « le prince du royaume de Perse ». Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a séparé les nations, hein, selon le nombre des fils de Dieu. Et là, il dit « le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, dont je prends la Nouvelle Bible Second, est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Les rois de Perse, c'est des rois humains, là. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le prince de Perse. Quand je partirai, c'est le prince de Grèce qui viendra. Or, dans l'histoire, quel est le royaume qui a démonté et qui a détruit le royaume de Perse? C'est les Grecs. Et là, il lui dit, quand je partirai, c'est-à-dire que j'en aurai fini, en gros, avec le prince de Perse, c'est le prince de Grèce qui viendra. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans l'écrit de vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Personne ne me prête main forte contre cela, excepté Michel, votre prince. Donc, le prince d'Israël, c'est Michel, c'est Michael, l'archange. Allô, Michael. Mais il y avait aussi un prince de Perse, un prince de Grèce. Et ouais. Donc, voilà les Elohim. Ils sont là. Ça, c'est des Elohim du Conseil divin. Enfin, du coup, parmi les plus puissants. qui sont à la tête des nations. Ces êtres-là, ce n'est pas n'importe quoi. Là, on a affaire à quelque chose de costaud. Là. On a affaire à des êtres, attention. Hein. Attention, ce sont des... voilà, donc on les appelle des Elohim, c'est pas pour rien. Mais ce ne sont pas des dieux au sens où Dieu l'est. Ils n'ont pas créé, ils ont été créés. Ils ne sont pas capables de faire ce que Dieu fait. Les signes et les prodiges, de, on en reparlera la prochaine fois. Ils sont incomparables. Dieu est incomparable par rapport à eux. Il est souverainement élevé au-dessus de tous les Elohim. Il est incomparable, il est unique. Il est unique. Et c'est là que vient la doctrine de l'unicité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres êtres. C'est qu'il y en a un qui se démarque et qui se démarquera toujours de tous les autres. C'est lui, c'est le Seigneur l'Éternel. Et c'est Jésus le Fils aussi. Donc, aujourd'hui, on va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on va essayer de... Je vous le laisse dans votre esprit pour que lorsque vous lisez la Bible, vous pensez qu'il y a cette réalité. Et que derrière des réalités politiques, de géopolitique, d'histoire et tout ça, il y a ça derrière. Derrière, il y a ça. Il y a ces choses-là. Il y a un conseil divin. Il y a des êtres. Voilà. Il existe un conseil divin composé du Seigneur et d'autres Elohim. Certains d'entre eux ont autorité sur les nations, une partie. Satan, on le verra plus en détail, et d'autres esprits est opposé à Dieu. Dieu décide de l'ordre du jour. Hein. Donc, quand il y a des conseils, c'est pas les gens qui arrivent et disent... Non, on le voit quand c'est Dieu qui décide de l'ordre du jour et qui délègue parfois, quand il veut, l'accomplissement de sa décision à ses êtres, ses fils de Dieu, que ce soit des anges, des esprits mauvais ou Satan lui-même. C'est le Seigneur, lui seul, qui décide de qui intervient, ainsi que de quand et comment. Il existe une armée divine qui sert Dieu et ses plans et lutte contre la partie rebelle au Seigneur. Alors comment appliquer ça? Ce sont des vérités, ça, qu'on a vu. Comment l'appliquer? Eh bien, dans notre lecture, lorsque vous méditez la Bible, lorsque vous interprétez la Bible et lorsque vous priez, prenez conscience que lorsque nous prions, parce que nous sommes en Christ, on va le voir hein, plus tard, et assis dans les lieux célestes avec lui, notre prière, elle a un impact sur ce monde-là. C'est ce que Daniel avait compris. C'est ce que Daniel avait compris. Notre prière, elle a un impact. Notre piété a un impact. L'Église, quand elle est obéissante, elle a un impact. D'ailleurs, le diable, il fera tout pour nous détruire. Mais bon, c'est le Seigneur qui décide de ce qui se passe dans nos vies et de ce que l'Église vit et par où elle doit passer. Mais il y a une souveraineté de Dieu qui est absolue sur ces choses-là. Mais il faut bien comprendre que l'Église ne peut pas ignorer, ne peut pas, ne pas lire la parole de Dieu, la Bible, en ignorant ces vérités qui sont des réalités. Et des réalités vraiment qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas contourner. Ce sont des choses qui existent et ces choses-là, ce sont les choses invisibles qui président aux choses visibles. Voilà, c'est ça. Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention lorsque nous lisons la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, nous devons réaliser et comprendre l'importance de ces vérités qui nous servent de clé dans la compréhension des paroles et des actes de Dieu. Et c'est ça l'application. Lorsque vous priez, lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous réfléchissez à la vie d'Église, pensez qu'il y a ces réalités-là. Qu'il y a ces réalités-là. Il y a ce monde invisible qu'il a. Il est bien présent. Il existe bel et bien. Et il a une influence importante. Et nous devons faire attention à ces choses-là.